Chapitre 7. Un point incandescent dans la nuit. La clé de l'énigme se trouvait dans les alliances entrelacées, évidemment. Holmes et James joignirent leurs efforts pour tâter le bas-relief. Il leur fallut plusieurs minutes pour l'inspecter. Bras levés au-dessus de leur tête, ils glissèrent les doigts dans le creux de granit autour des deux anneaux. « C'est le côté le plus important du monument, » marmonnait Holmes. Le chantier a été recouvert par un chapiteau pendant un mois et demi. Quel besoin y aurait-il de protéger de la pluie un simple bloc de granit? Adams aurait aussi bien pu me dessiner un plan et laisser des flèches dans l'herbe pour m'indiquer le chemin. Holmes dut pourtant s'y reprendre à quatre fois. Les trois premières, ses doigts firent le tour sans rien trouver. Et puis au quatrième, il sentit la plus discrète des encoches en bas de l'alliance droite. « Reculez !» ordonna-t-il. Il sortit un outil de cambrioleur de son sac, un pied de biche très court dont une extrémité était taillée en biseau. Il cala le bout dans l'encoche, la dimension était bonne. Il y eut un déclic et les deux anneaux pivotèrent presque à angle droit. Holmes se saisit de l'un d'entre eux et poussa. Un panneau entier s'ouvrit dans le granit, révélant un espace obscur. « Seigneur !» s'exclama James en reculant de deux pas comme s'il avait peur d'être aspiré par les ténèbres. Avant de passer le seuil, Holmes éclaira l'intérieur avec le mince rayon de la lanterne. Il fit bien. Un trou carré s'ouvrait au ras du seuil de la largeur d'un homme, avec une échelle pour descendre. De l'autre côté de ce puits, un siège était accessible par une étroite corniche de granit. L'intérieur du monument était en bronze irrégulier, bosselé. La statue est creuse, commenta Holmes sans surprise, car il l'avait compris au terme de ses réflexions sur le banc. Il rangea son outil et, tenant son sac avec sa canne dans une main et la lanterne dans l'autre, il entra en contournant le trou par la droite. Il s'arrêta pour éclairer l'entrée. « Faites attention où vous mettez les pieds, James. »«
Je n'ai aucune intention d'entrer, » protesta l'écrivain.
« Comme vous voudrez. Retournez au cab qui nous attend dans New Hampshire Avenue. Je n'en ai pas pour longtemps. » Il tendait déjà le bras pour refermer le panneau pivotant quand James s'écria
« Attendez, je viens. »
Le robuste auteur pénétra dans le monument avec précaution, passant par la gauche du trou. Holmes inspecta l'intérieur du panneau à la lueur de la lanterne. « Je veux m'assurer qu'on peut bien ouvrir de l'intérieur sans clé. Je ne voudrais pas que nous soyons… Ah, voilà. » Holmes manœuvra le mécanisme pour s'assurer qu'il fonctionnait, puis il fit reprendre sa place au panneau qui se ferma dans un déclic. Ils étaient enfermés dans le tombeau. « Commençons par l'échelle, » dit Holmes en faisant jouer la lumière dans le trou. Des échelons métalliques étaient scellés dans la pierre et descendaient d'environ 2,50 m. Il ne vit d'abord rien d'autre. Puis il s'aperçut qu'une paroi de ce puits, côté statue, était en fait un rideau noir. « Voudriez-vous tenir la lanterne exactement dans cette position pendant que je descends ? » demanda Holmes.
« Non !» s'écria James. « Ne faites pas ça !»
Puis, continuant dans un murmure angoissé, car il semblait impossible d'élever la voix en ces lieux, il ajouta
« Nous ne pouvons pas descendre, c'est trop horrible !» « Ce souterrain, c'est épouvantable !»
Holmes contempla le visage de son compagnon à la lueur de la lanterne et comprit ce que James redoutait de trouver derrière le rideau de velours noir. Un cercueil en verre exposant la dépouille flétrie de Clover Adams. Après 7 ans, que resterait-il d'elle? Holmes ne savait malheureusement que trop bien à quoi ressemblait un cadavre au bout de 7 ans.
« Non, non, je ne crois pas, James, » chuchota-t-il.
Votre ami Adams est un homme étrange, peut-être même fou par certains côtés, mais sa folie n'est pas imprévisible. Je suis sûr que nous ne trouverons rien de trop terrible en bas. Il tendit la lanterne à James et posa son sac et sa canne sur la banquette capitonnée, fixée sur le support d'un poteau. « Je descends, » annonça Holmes. Dès que James eut trouvé le bon angle pour l'éclairer, il s'enfonça de quelques échelons. « Je peux la tenir maintenant. » Il tendit le bras pour prendre dans ses doigts blancs la poignée métallique fixée en haut de la lanterne. Arrivé en bas, Holmes s'arrêta et éclaira les côtés. Le puits était étroit, à peine plus large que les épaules, et il ne fallait pas être claustrophobe. Holmes sourit, pensant qu'il devait ressembler à un archéologue pénétrant pour la première fois dans une tombe en Égypte, à Babylone ou à Troie. Mais il n'y avait pas de hiéroglyphes sur les trois parois de granit, ni de niche, ni d'indice, et seul le rideau noir sur le quatrième côté promettait un mystère. Holmes leva la lanterne, souleva un peu plus le volet et écarta la tenture. Il s'assura qu'il y avait un sol solide où poser les pieds, puis il fit un pas en avant.
Que voyez-vous ?
Demanda James en un chuchotement inquiet.
Un instant.
Holmes découvrit un espace rectangulaire d'environ 2 mètres de large sur 2,50 mètres, creusé sous le socle du monument et le gravier de l'hexagone. Il estima qu'il devait y avoir 60 centimètres de béton ou peut-être de granit au-dessus de sa tête, et puis encore de la terre. À sa gauche, dans une longue niche creusée dans la pierre à hauteur d'épaule, s'alignaient des livres. Juste devant, un pilier de granit, à la même hauteur, servait de reposoir à une petite lampe. Holmes fut tenté de l'allumer avec son briquet, la nouveauté qu'il avait toujours sur lui. Cet éclairage offrant certainement une meilleure lumière que sa lanterne sourde, mais il ne voulait laisser aucune trace de son passage. À sa droite, une alcôve creusée dans la paroi à environ 90 cm du sol abritait un étroit matelas garni de 2 oreillers à un bout. Ce lit ne mesurait pas plus de 1,80 m de long, si bien que Holmes n'aurait pas pu s'y allonger jambes tendues. Il n'y songeait d'ailleurs pas. Le lit était fait de propre, ce que le détective constata en touchant la couverture et les draps qu'il ne trouva ni froid ni humide. Il devait être changé régulièrement. Holmes songea que ce devait être bien les seules fois de sa vie où Henry Brooks Adams faisait son lit lui-même. Un deuxième pilier de granit adossé à l'autre extrémité soutenait lui aussi une lampe. À côté de cette lampe, un livre. Holmes le prit. Le volume était relié de cuir, et il leva la lanterne pour en lire le titre. « La lumière de l'Asie » par Sir Edwin Arnold. La publication de ce poème épique, en 1879, avait fait sensation en Amérique et en Angleterre, mais Holmes n'en avait lu que le début, sa patience ayant été mise à rude épreuve par le style, beaucoup trop lyrique à son goût. Il se souvenait cependant d'une excellente critique parue dans le Times de Londres, écrite par le distingué japonologue Lafcadio Hearn à la sortie de l'édition de 1883. Le bouddhisme, sous l'une de ses formes ésotériques, pourrait bien devenir la religion de l'avenir. Qu'est-ce que le ciel de l'imaginaire chrétien, après tout, si ce n'est le nirvana, l'extinction de l'individualité fondue dans l'éternel? Eh bien, songea Holmes. Après avoir soigneusement remis le livre à sa place exacte, il repassa de l'autre côté du rideau et leva la tête vers le haut du puits. Descendez, James.
Sûrement pas.
Vous devriez, sinon vous vous demanderez toute votre vie si je vous ai dit la vérité. Je vous garantis qu'il n'y a rien de perturbant en bas. Il entendit un ricanement étouffé, puis dans un chuchotement fiévreux, James répondit
« Tout ici est perturbant, Holmes. Nous envahissons le jardin secret d'un brave homme. Nous nous immiscons dans son deuil et peut-être même dans sa folie. Nous sommes des criminels. Notre comportement est inqualifiable. »
C'est vrai. Mais le mal est fait. Descendez voir ce qu'il y a en bas, et puis nous pourrons partir.
Bien. Levez un peu plus la lanterne,
dit Henry James, toujours à voix basse, avant de descendre lourdement les échelons de fer. 5 minutes plus tard, ils étaient de retour dans la partie supérieure du monument. La banquette était suffisamment grande pour deux, à condition d'étendre chacun une jambe sur le côté en calant le pied sur le rebord du trou.
« On ne peut pas voir dehors par les yeux »,
murmura James. Il réussissait en effet à repérer les traits du visage en creux à la lueur de la lanterne, mais si du dehors les yeux lui avaient paru vides, il s'apercevait à présent que 2 pièces métalliques ovoïdes bouchaient les orifices. Pour sa part, Holmes avait déjà remarqué, alors qu'il examinait la statue de l'extérieur, que des plaques d'un métal différent du bronze fermaient les yeux baissés.
« Cherchez une manette », souffla Holmes. « Ces plaques doivent être actionnées par... Voilà !»
Le mécanisme d'ouverture se trouvait à la gauche de James.
Posez la main sur le levier, mais n'ouvrez pas tout de suite, ordonna Holmes en parlant à l'oreille de James. Je vais d'abord cacher la lumière de la lanterne pour laisser à nos yeux le temps de s'habituer à l'obscurité.
Holmes trouvait étrange de se trouver ainsi collé à un autre homme dans le noir. Il sentait que James s'éloignait autant qu'il le pouvait, déportant son poids sur le pied gauche pour éviter de le toucher.
Allez-y, murmura Holmes.
Les caches s'ouvrirent presque en silence au bout des tiges métalliques qui les soulevaient. L'angle était parfait. La tête du personnage androgyne était penchée et le visage partiellement voilé par les plis du drapé, mais les ouvertures des yeux étaient plus grandes que nature et Holmes, à travers l'œil droit et James à travers le gauche, voyait l'intégralité de l'hexagone devant eux, les bancs et les étoiles au-dessus des arbres qui entouraient le parterre de gravier désert. Assez vite, ils se rassirent plus confortablement sur la banquette et constatèrent qu'ils voyaient tout aussi bien dehors.
« C'est bien ici qu'Adam surveille les réactions des gens sans qu'on puisse le voir, » murmura James.
Holmes fit un signe d'assentiment.
Je ne sais pas si...
James s'interrompit, sentant la main de Holmes lui agripper le haut du bras pour le faire taire. Quelqu'un avait passé la haie et était entré dans l'hexagone. Holmes et James se penchèrent en avant, mais n'approchèrent pas l'œil trop près de l'ouverture de peur que la lueur des étoiles ne révèle leur présence. Holmes ne distingua aucun détail, mis à part la découpe d'un pantalon, ce n'était à l'évidence pas une femme en robe. La silhouette, haute et étroite, s'assit sur le banc face à la sculpture. Les épaules dépassaient du dossier qui était élevé. Le visiteur devait être même plus grand que Holmes. James se pencha pour murmurer « Ce n'est pas Adams ». Holmes lui signifia de se taire en resserrant sa prise sur son bras. Le crissement du gravier sous les chaussures avait été si bruyant que le détective supposait que le monument amplifiait les sons. Adams avait probablement demandé à Stanford White de rechercher cet effet acoustique, ce qui expliquerait la disposition des bancs et leur dossier anormalement haut. S'il en était ainsi, Holmes redoutait que, de la même façon, tout bruit provenant de l'intérieur de la sculpture soit démultiplié à l'extérieur sur la plateforme. James le comprit et se tut, approchant de nouveau l'œil du trou. Pendant plusieurs minutes, l'homme ne fit rien. Les yeux de Holmes s'étant encore adaptés à cette nuit sans lune, il vit de longs bras jetés en arrière sur le dossier du banc, justement dans la position que Holmes avait adoptée peu de temps auparavant. Le silence s'éternisa. Puis l'homme baissa les bras et Holmes vit des mains pâles qui tâtaient les poches de la veste ou du gilet. Puis il entendit le grattement d'une allumette et vit la silhouette se pencher pour allumer une cigarette. La flamme aurait dû révéler le visage, mais Holmes ne vit qu'un halo lumineux coupé par un arc sombre. Le visiteur portait un chapeau à large bord qui cachait son visage. Était-ce le fruit du hasard ou une dissimulation délibérée? Impossible à savoir, mais il eut l'intuition que c'était volontaire. Il resta donc immobile avec James, tous deux inconfortablement serrés sur leur étroite banquette, osant à peine respirer, tandis que l'homme fumait. On ne voyait de lui qu'un point incandescent dans la nuit. L'homme termina enfin sa cigarette. Ils devinèrent plutôt qu'ils ne virent un mouvement des mains pâles, et il en ralluma une autre. De nouveau, le chapeau baissé dissimula ses traits quand l'allumette s'enflamma. « Il nous nargue », songea Holmes. Holmes avait compté que Lucan Adler lui laisserait plus de répit, mais sans doute avait-il sous-estimé la puissance de la rumeur, la nouvelle de sa présence étant susceptible de se répandre aussi bien par les Hay et leurs domestiques que par les Cabot Lodge, les Cameron ou Roosevelt, sans oublier Clemens et William Dean Howells. Lucan était le plus dangereux des prédateurs, et soudain oppressé, Holmes comprit avec un sentiment qui ressemblait à de la peur, qu'il avait donné plus qu'assez de temps à l'assassin pour le retrouver. « Pourquoi ne m'a-t-il pas encore tué ?» se demanda Holmes, qui, sans en avoir immédiatement conscience, avait glissé la main droite dans la poche de son pardessus. Au lieu de trouver la crosse rassurante d'un pistolet, il n'avait pas pris le temps d'en acheter un depuis son arrivée à Washington, il trouva son casse-tête, une courte matraque américaine appelée « Blackjack ». L'extrémité, en cuir robuste, était remplie de sable et permettait, avec un peu de savoir-faire, de mettre hors d'état de nuire le plus puissant des agresseurs. Il avait dans sa poche de pantalon un couteau pliant pourvu d'une lame de 10 cm. Le pied de biche qu'il avait apporté dans son sac de cambrioleur pourrait aussi lui servir à se défendre. Le grand Sherlock Holmes surpris avec un canif et une matraque par un tireur d'élite, songea-t-il, s'appuyant sur son humour pour chasser cet instant de panique. Il n'avait pas prévu que le face-à-face avec Lucan Adler se passerait en présence de Henry James, mais qu'il le veuille ou non, Lucan était là. C'était lui, il en était presque sûr. Il était tout aussi évident que Lucan avait deviné la présence de Holmes dans le monument et savait qu'il n'était pas seul. Le rougeoiement s'éteignit. Holmes se raidit et sa main se crispa sur le manche du casse-tête. Au moins, si Lucan entrait dans le monument, Holmes pensait que le tueur avait dû observer l'ouverture du panneau, il n'aurait pas la place de faire feu avec précision. L'environnement idéal pour un combat à l'arme blanche, d'autant que Lucan ne sait probablement pas qu'un trou s'ouvre dans le sol juste à l'entrée, songea Holmes. L'ennui, c'était que Henry James se trouverait pris dans la bataille. Une troisième allumette s'enflamma. La tête se baissa de nouveau, le large bord du chapeau dissimulant toujours le visage. L'extrémité incandescente d'une cigarette se ralluma dans la profonde obscurité de la plateforme. Il s'écoula plus d'une demi-heure, d'après l'estimation de Holmes qui ne quittait pas des yeux l'inconnu assis face à eux devant la sculpture qui devait être à peine visible dans le noir. Holmes était presque certain qu'il ne s'agissait pas de Henry Adams. Même si la taille de l'individu était difficile à estimer, il ne pensait pas qu'Adams porterait un chapeau pareil. Et plus le temps passait, plus il se persuadait que c'était bien Lucas Nadler qui jouait au chat et à la souris avec lui, attendant le moment propice pour passer à l'attaque. Holmes commençait à avoir des crampes, mais surtout à sentir se réveiller les douleurs causées par ses 3 blessures par balle. La plus pénible était celle du bas du dos, du côté droit. Holmes réalisa qu'il avait été tellement absorbé tout l'après-midi et toute la soirée par l'énigme que lui avait posée Adams, qu'il avait oublié de s'injecter sa 2e dose d'héroïne de la journée. L'anesthésie se dissipait. Holmes colla sa bouche contre l'oreille de James, il sentit l'odeur d'une coûteuse pommade pour cheveux, et murmura « Bougez pas, je sors ». Il sentit plutôt qu'il ne vit James secouer la tête, mais il lui serra fortement le haut du bras et lui répéta de ne pas bouger. Après tout, peut-être que Lucas ne nous a pas vu entrer dans le monument, songea Holmes. Si c'est le cas, James a des chances de survivre, même si Lucas a le dessus et me tue. Holmes posa le pied en silence sur la corniche à droite du trou, trouva la lanterne à tâtons et la souleva dans sa main gauche. Il devrait la rallumer dehors en fermant aussitôt le volet. Quoique, un faisceau lumineux braqué sur le visage de Lucas, non, ça ne fonctionnerait pas, songea-t-il en abandonnant l'idée. Holmes jeta un dernier coup d'œil dehors pour s'assurer que la silhouette et le bout incandescent de la cigarette étaient toujours là. Puis il enjamba son sac de cambrioleur, trouva le mécanisme d'ouverture du bout des doigts et ouvrit le panneau. Le déclic fut léger, mais éclata comme un coup de feu à ses oreilles inquiètes. L'air qui s'engouffra dans le monument était si froid que Holmes comprit à quel point l'atmosphère confinée de l'intérieur avait été surchauffée par la température de leur corps. Une fois dehors, il prit le risque de refermer le panneau, ce qui provoqua un nouveau déclic intolérable, mais donnait à James une petite chance supplémentaire de survivre à la confrontation, si c'était bien Lucas Nadler qui les guettait. Il s'agenouilla, sortit son briquet mécanique de sa poche de pantalon et ralluma la lanterne sourde, une lueur brève mais qui lui sembla visible de partout dans le cimetière. Il avait détourné la tête en allumant la lanterne, ne voulant pas perdre sa vision nocturne, mais il dut tout de même rester un moment à cligner des yeux avant de se réadapter à l'obscurité. Tenant la lanterne devant lui au bout de son bras gauche tendu, les doigts de cette même main prêts à soulever très vite le volet pour avoir de la lumière, Holmes sortit sa matraque de sa poche. Il contourna la plateforme par l'extérieur, à pas de loup, vers le passage dans la haie. Aucune lumière ne filtrait par l'ouverture dans la végétation. Holmes avançait avec 1000 précautions, mais tâchait de ne pas aller trop lentement non plus. En fin de compte, il ne pouvait compter pour se sauver que sur l'effet de surprise et un rayon de lumière soudain projeté dans les yeux de Lucan. Il s'arrêta au niveau des arbres, puis avança rapidement la tête pour jeter un coup d'œil de l'autre côté de la haie. Ce bref mouvement, il le savait, suffirait à fournir une cible suffisante à un tireur professionnel à l'affût. Même si les nuages cachaient les étoiles, il faisait plus clair en dehors de l'hexagone qu'à l'intérieur et Holmes savait que sa tête serait visible en silhouette. Pas de coup de feu, pas un bruit. Holmes se risqua de nouveau à passer la tête par l'ouverture, mais il ne distingua ni le bout rougeoyant de la cigarette, ni l'homme sur le banc. La nuit était trop épaisse. Depuis 3 quarts d'heure, le ciel s'étant couvert, il n'avait guetté que la cigarette de l'homme et non sa silhouette sombre. « Eh bien, il va falloir aller y regarder de plus près », songea Holmes. Il leva la lanterne, toujours volet fermé, et passa entre les buissons en faisant bruire le feuillage beaucoup trop fort à son goût. Dès qu'il fut sur la plateforme, il actionna le volet pour laisser filtrer la lumière et tint prête sa matraque. Il n'y avait personne sur le banc. Où cet homme avait-il disparu? Il pouvait être n'importe où et le tenir en joue. Holmes aurait dû refermer la lanterne, dans le noir Lucan n'aurait plus l'avantage, mais il n'en fit rien, trop impatient de mener la confrontation à son terme pour agir avec prudence. Il se déplaça vite, changeant de trajectoire, la lanterne levée loin de lui, le rayon balayant l'espace. Les bancs étaient vides, l'hexagone aussi. Personne en vue aux abords du monument. Derrière les bancs. C'était là que Holmes se serait dissimulé s'il avait voulu s'embusquer pour tirer sur quelqu'un. Il sauta sur le banc, puis enjamba le haut dossier, atterrissant en position accroupie dans le couloir noir et étroit formé par l'arrière des bancs et la haie. Il balaya l'espace avec sa lanterne. Rien. Il avança, plia en deux pour mettre sa tête sous le niveau des dossiers de pierre, et atteignit le premier angle. Il posa la lanterne sur le sol et dirigea le faisceau vers la gauche. Pas de coup de feu, pas de bruit. Holmes avança la tête. Un corridor s'étendait devant lui, bordé à droite par le mur continu de la haie. Il avança vite jusqu'au dernier côté et tourna cette fois sans s'embarrasser de précautions. Il était prêt à fracasser sa lanterne s'il voyait l'adversaire. Rien. Holmes retourna dans l'hexagone et fit le tour de la haie. Quelqu'un avait pu forcer un passage en cassant des branches, mais il l'aurait entendu. Ayant assuré ses arrières, il leva la lanterne et approcha du monument en restant sur le côté, imaginant Henry James mort, son corps précipité au fond du puits, et Lucan posté à l'intérieur, derrière l'un des yeux, pistolet pointé contre le trou de l'autre. L'orifice était suffisamment large pour laisser passer une balle de revolver. Sa pèlerine frôla le feuillage tandis qu'il se glissait vers la sculpture assise, puissamment évocatrice même dans la nuit. La lumière de la lampe donnait du relief au repli du voile et jetait dans une ombre encore plus mystérieuse le visage au nez droit et au menton carré soutenu par la main. James ? Holmes sursauta, surpris par le son de sa propre voix, car il avait parlé d'un ton normal. Pas de réponse. Il appela plus fort. « James ?»«
Je suis là !»
La voix curieusement étouffée sortait de la tête de la statue. Holmes imagina l'écrivain pris en otage, la gueule du pistolet pressée sous son double menton. Il n'était d'ailleurs même pas sûr que ce soit bien la voix de Henry James qu'il avait entendue. « Lequel de vos romans vous ai-je dit avoir aimé ?» demanda-t-il. Il se tenait toujours en retrait du côté droit du monument, à un endroit où il ne pouvait pas être pris pour cible par un tireur posté à l'intérieur de la sculpture.
Pardon ?
La voix d'outre-tombe ressemblait un peu plus à celle de James cette fois, vibrant d'une certaine irritation. Holmes répéta sa question.
La princesse Kazamassima !
Telle fut la réponse impatiente.
Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question !
Holmes sourit et se plaça devant la statue, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder derrière lui toutes les deux secondes.
« Où est-il passé ? » demanda-t-il à la statue. « Je n'en ai pas la moindre idée, Holmes !»
La voix de James, bien qu'encore étouffée, était beaucoup plus audible à présent.
« Juste après l'ouverture du panneau, la cigarette s'est éteinte. Je n'ai vu aucun mouvement. Il a disparu. »«
Eh bien, je l'ai manqué. Pourriez-vous récupérer mon sac en sortant ?»
« Il fait trop sombre !»
protesta James, parlant toujours à travers l'œil.
« Je ne saurais pas où poser les pieds. Le puits est... Le mécanisme... Je vais essayer, mais
laissez. Je vais venir vous chercher, c'est préférable. Ne bougez pas, j'en ai pour une minute. J'arrive avec la lanterne. » Mais au lieu de quitter la plateforme et de contourner le monument par l'arrière, Holmes retourna au banc et s'accroupit pour examiner le gravier. Il prit encore un moment pour inspecter le sol avec sa lanterne le long des trois bancs. Cela fait, il passa derrière les bancs et recommença la même opération. Il arpentait l'hexagone quand un son étouffé s'échappa de la sculpture. Holmes approcha en levant haut sa lanterne. « Qu'est-ce qu'il y a, James ?»«
Mais qu'est-ce que vous fabriquez, bon Dieu ?»
s'exclama le visage androgyne plongé dans ses sombres pensées. « Je cherche des mégots et des cendres de cigarettes, » expliqua Holmes. Nous avons vu que Lucan, ou du moins cette silhouette dans la nuit, fumait au moins trois cigarettes. Nous avons senti la fumée du tabac. Et pourtant, il n'y a pas une seule cendre, pas un mégot. Il a dû faire tomber ses cendres dans sa main et les mettre dans sa poche avec ses mégots. Vous ne trouvez pas cela curieux s'il avait des intentions innocentes ?
Que le diable emporte vos mégots ! Venez me chercher, Holmes ! Je retiens un besoin pressant depuis plus d'une heure.
Le cab ne les attendait plus quand ils retournèrent dans New Hampshire Avenue.
Oh, « Le forban !» fulmina James. « Ce maudit cocher a pris notre argent et nous a abandonnés !»«
Nous avons mis longtemps à revenir, » remarqua Holmes. Il avait traversé le cimetière la tête rentrée dans les épaules, crispé à l'extrême, s'attendant à sentir l'impact de la balle sans entendre le tir. Il s'était arrêté au bord de l'avenue, heureusement très peu éclairé.
« Notre ami le fumeur nous a peut-être soufflé notre voiture !» suggéra James. Comment allons-nous rentrer ?
À pied. Il n'y a que 6 kilomètres jusqu'à la pension de Madame Stevens. Holmes savait qu'il aurait beau se raisonner, ce trajet serait une torture car il allait s'attendre à recevoir une balle à chaque pas. À partir de ce jour, où qu'il soit et à toute heure, il serait sur ses gardes jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Quelques minutes plus tard, James s'arrêta sous un bec de gaz devant la pelouse d'une maison aux fenêtres noires. Sa lumière jetait un ovale jaune sur le bitume. Là, ce serait l'endroit idéal, songea Holmes. Lucan, posté dans l'obscurité derrière la maison ou dans les ténèbres des arbres qui l'entouraient, ses cibles immobiles comme des cerfs pris dans le faisceau de la lanterne d'un braconnier. car James y passerait aussi peut-être si le tueur avait envie d'un beau tableau de chasse.
« Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai perdu ma montre !» annonça James. « Quelle heure est-il ?»
Holmes espéra que l'écrivain ne l'avait pas laissé à l'intérieur du monument. Il prévoyait d'annoncer le lendemain à Henry Adams qu'il avait percé son énigme, qu'il était entré dans l'abri de chasse le plus coûteux du monde, mais il ne voulait pas lui révéler que son ami James s'était joint à lui. Il posa son lourd sac de cambrioleur, sortit sa montre de son gousset par la chaîne et la consulta en la tournant vers James pour que lui aussi puisse voir l'heure à la lumière du bec de gaz. « Minuit et quart, » dit Holmes. James hocha la tête, ramassa le sac de Holmes et se remit en marche. « Minuit passé, » songea Holmes en le rattrapant, ses semelles écrasant le bitume. On était donc mardi, le mardi 4 avril, le jour de son anniversaire. Sherlock Holmes venait d'avoir 39 ans.